Mais d'abord, Luc Lavoie.
Bonjour Bernard.
Il fut un temps, j'aurais dit, la voix est libre.
Voilà.
Mais on le sait maintenant, elle est toujours libre, cette voix.
Ah, je pensais que tu me baillonnais, là.
Ce n'est plus nécessaire de le dire. Alors, COVID d'abord.
COVID, ben, je commence aux États-Unis parce que, bon, les premiers vaccins là, sont sur le point d'être utilisés, mais on parle d'un hiver qui sera extrêmement sombre. On parle que d'ici le moment où on va atteindre, enfin, d'ici février, il y aura 450 000 personnes de plus qui vont mourir, selon le plus haut responsable du Center for Disease Control.
Là, il y en a combien, Redfield.
Excuse-moi,
il y en a
combien? Ils sont à 280, je pense, 280.
Il y en a un autre 450 qui va s'ajouter?
150 000 qui va s'ajouter.
Pardon, OK, j'avais mal compris. Bon,
okay. Bon. Alors là, à l'heure actuelle, il meurt autant de gens aujourd'hui qu'au pire de la première vague au printemps.
Bon.
On dépasse largement les 2000 morts quotidiens ces derniers jours et on est à, bon, voilà, 280 000. L'épidémie est en réalité pire que pendant la première vague.
Oui.
100 000 personnes sont hospitalisées de la COVID-19, contre 60 000 au pic d'avril et de juillet. La réalité, je le cite Robert Redfield, la réalité est que décembre, janvier et février seront des temps très difficiles. Ce sera la période la plus difficile de l'histoire de la santé publique dans ce pays. Malheureusement, avant février, nous pourrions approcher des 450 000 Américains morts.
Ça va faire une drôle d'ambiance parce que au moment où on aura tous ces morts, on aura également l'opération vaccination en cours. Tu t'imagines la pression?
Oui.
Tu t'imagines on va être comme dans un sprint pour essayer de vacciner le maximum pour limiter le nombre de morts, mais il y aura quand même tous ces morts qui vont. Ça va créer un drôle d'environnement. Hein?
Oh, on va frapper 300 000 morts aux États-Unis avant la fin de l'année. Là, on est presque arrivé. On va être là dans une dizaine de jours.
Hey, tu te rappelles quand Fauci, toi, il avait fait la prévision de 240 000, puis on trouvait ça énorme. Ils vont se rendre facilement à 300, peut-être à 400?
Ah non, ils vont se rendre facilement en haut de 300, Bernard. 400, je le sais pas, là, mais il dit que ça peut être autant que 450 000.
Aïe, aïe, aïe.
Monsieur. Alors, ils prévoient par ailleurs, les Américains, dans leur efficacité, quand ils s'y mettent, puis quand ils n'ont pas un abruti à la tête de la Maison-Blanche, là, ils prévoient d'avoir vacciné environ 20 millions de personnes en décembre. 20 millions en décembre, Bernard. Avec les vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna. Et évidemment, il faut le feu vert là, des autorités, mais ça devrait venir vers le 10 ou le 11 décembre.
Oui, puis ils disent qu'ils vont commencer à vacciner dès
immédiatement,
dès
24
heures. Dès le lendemain, voilà, exact.
24 heures plus tard, on est à pied d'œuvre. Alors, on dit qu'en 20 millions avant la fin de décembre et 80 millions de plus en janvier et février. L'immunité collective et un début de retour à la normale pourraient apparaître vers avril, mai ou juin, selon le docteur Fauci, c'est-à-dire que 70 à 75% des Américains pourront alors avoir été vaccinés. Et pour convaincre de l'efficacité des vaccins, les trois anciens présidents, Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton, ont annoncé qu'ils se feraient volontiers vacciner publiquement.
Oui, ça, c'est intéressant, ça.
Obama, c'est intéressant, puis c'est très américain. Tu sais, tout se vit à travers les médias aux États-Unis, tu comprends? De dire « j'ai été vacciné » ne suffit pas, ça prend une caméra, faut le voir.
Oui. Mais tu te rappelles, du temps de la H1N1 ici, c'était Bolduc qui était ministre de la Santé, et Amir et moi, on était ses critiques en santé. Puis on s'était fait vacciner les trois ensemble à l'hôpital Pierre-Boucher, toi.
Ah, je me rappelle pas de ça.
Ouais. Fait que d'après moi, Luc, d'après moi, ils l'ont su.
Ils ont copié.
Ils l'ont copié. C'est ça. C'est la même affaire, je te le dis. Ils l'ont su, puis ils sont du garde. Ça s'est fait
Ça ne me surprend pas. T'as vu, hier, l'Interpol nous avait entendu avant-hier. Ils sont à Lyon. Des fois, c'est la Maison-Blanche. Écoute, on a un auditoire diversifié et planétaire. N'ayons pas peur de le dire,
Bernard. Attends, Christian Page arrive à la fin de l'émission, là. Puis check bien ça, là, s'il nous annonce pas que quelque part sur une autre planète, dans une autre galaxie...
Jette un coup d'œil à la France, Bernard.
Oui.
La vaccination commencera en janvier pour 1 million de personnes âgées en établissement, en février pour 14 millions de personnes fragiles, puis au printemps pour l'ensemble de la population. C'est ce qu'a annoncé le premier ministre Jean Castex. La France disposera d'un potentiel de 200 millions de doses, ce qui permettrait de vacciner 100 millions de personnes, puisque le vaccin nécessite à ce jour deux injections, à quelques semaines d'intervalle. Parlons du Canada.
Oui.
On a entendu le major-général Fortin en conférence de presse ou en point de presse.
Oui.
Eh bien, les forces armées canadiennes ont officiellement reçu la semaine dernière l'ordre de commencer à planifier la distribution de vaccins contre la COVID-19, bien que le chef d'état-major de la Défense affirme que les préparatifs sont en cours depuis bien plus longtemps. Cet ordre-là s'est contenu dans une directive émise la semaine dernière par le chef d'état-major. Le document détaille pour la première fois comment l'armée compte contribuer à la distribution des vaccins. Il note la possibilité de devoir récupérer des doses aux États-Unis et en Europe dans de brefs délais et soulève des préoccupations dans l'éventualité où l'armée serait appelée à répondre à des inondations ou d'autres situations d'urgence. Mais enfin, la vaccination d'abord. C'est l'Agence de santé publique du Canada qui va piloter la grande vaccination, mais les forces armées canadiennes joueront un rôle important dans sa mise en œuvre.
Ah oui, logistique et distribution, un peu comme aux États-Unis.
Un peu comme aux États-Unis. Cette opération a maintenant un autre code, elle s'appelle l'opération Vector. Alors, les avions de l'armée canadienne vont servir au transport à court préavis depuis l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis ou ailleurs dans le monde vers des points de distribution désignés au Canada. Et en plus, les forces armées canadiennes...
Attends un petit peu, là. Tu viens de dire les avions des forces vont aller chercher les vaccins dans les pays où ils sont produits et les ramener chez nous. C'est ça que tu viens de dire.
Okay, exactement.
Très
ils vont les ramener chez nous.
Très bien.
Et on est présentement, il faut le dire, aux dernières étapes de l'examen des vaccins chez Santé Canada. On s'attend à une décision vers le 10 ou le 11 décembre. Autre phénomène particulièrement, troublant.
Oui, troublant.
Ouais. Les hackers.
Les pirates informatiques.
Il y a eu plusieurs attaques jusqu'à maintenant sur les compagnies qui fabriquaient ou qui faisaient de la recherche, pas qui fabriquaient, mais qui conduisaient de la recherche pour arriver à trouver un vaccin approprié. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, généralement en provenance de Corée du Nord, du Vietnam, de la Russie et de la Chine. Mais là, ça prend une autre dimension. Ils sont incroyables, les Chinois. On parle de l'unité de cybersécurité du géant de l'informatique IBM. Ils ont annoncé qu'ils avaient détecté un groupe très sophistiqué de pirates informatiques qui essaient d'obtenir autant d'informations que possible sur les besoins en matériel de congélation dont devront se munir les autorités sanitaires pour distribuer les vaccins.
C'est ce qu'ils veulent, là.
Ils veulent savoir qui a besoin des frigos, puis à quel prix ils sont prêts à payer, puis ils veulent être capables d'être les fournisseurs numéro un parce qu'ils ont une demande instantanée. En fait...
pour les fournir à partir d'entreprises chinoises.
Ben oui, c'est une affaire de mise en marché. C'est la mise en marché un peu particulière.
Ah.
Ils utilisent des courriels empoisonnés. Là. Tu sais, t'as tout 20 courriels, puis si tu cliques dessus, il se passe quelque chose. Et c'est envoyé au nom d'un dirigeant de Ayer Biomedical, qui est un fabricant chinois de matériel de congélation destiné au transport de vaccins. Alors... Le piratage informatique est devenu, comprends-tu, tellement sophistiqué.
Mais j'allais dire, c'est une grosse business, c'est une affaire de gros sous.
Énorme!
Une affaire de gros sous, parce que s'ils sont capables de connaître le prix auquel les concurrents font le congélateur, eh ben, ils vont soumissionner à des prix un peu plus bas, puis ils vont aller chercher du gros chiffre d'affaires, des grosses ventes.
Et surtout, ils vont être capables de planifier la logistique de livraison, tu comprends? S'ils disent, en France, on a besoin de X centaines ou milliers, je ne sais pas, de congélos à telle date, eux autres, ils vont être prêts à livrer immédiatement, mais c'est d'une injustice incroyable d'agir ainsi, mais les Chinois n'ont pas atteint le niveau de développement économique actuel uniquement en étant créatifs.
Ah non, il y a de la triche.
Ah, il y a de la triche, mais beaucoup de triche.
Ah, oui.
Beaucoup de triche, puis qui a fini par se transformer en ce qu'on appelle transfert technologique.
Oui.
Si tu veux faire affaire avec des Chinois, il faut que tu leur transfères une partie de ta technologie, sans ça, t'es sur la liste noire.
Bon.
Alors, ça fait partie des négociations que les Américains ont avec la Chine, de dire vous pouvez plus exiger les transferts technologiques.
Parle-nous, en terminant, des impacts de balles sur les murs du Parlement d'Ottawa.
Ben oui, il a été question de ça, parce que, ils sont dans des rénovations en passant. 10 ans de rénovation.
Ouais, ouais. Des milliards. Ouais,
ils ont
des
déjà milliards. 120 millions de dollars de dépensés. Et là, tu sais, il y a des traces de balles dans l'édifice du centre, là, dans le grand hall qui mène vers la bibliothèque du Parlement, à cause de cette attaque. Tu sais, le gars qui avait tué un militaire de
Zeev Bibo, là. Voilà. Ouais, ouais.
Alors, il y a eu un échange de coups de feu quand même sérieux. Et il y a des traces, le granit et le marbre ont été brisés par des balles. Et là, ils ont pris la décision de garder cette chose-là intacte dans les restaurations, c'est-à-dire que ça fait partie, disent-ils, du patrimoine de l'édifice.
Oui, oui.
Mais maintenant, là-dessus, je dois dire que je suis d'accord.
Moi aussi.
Ben, quand tu t'en vas à Notre-Dame de Paris avant l'incendie, tu vois les traces de balles qui ont été tirées lors de la libération de Paris. Quand tu vas au Reichstag à Berlin, qui a été non seulement incendié sous Hitler, mais en plus, après ça, qui a été pris d'assaut par les forces soviétiques qui ont mis fin à la guerre, ben, il y en a partout, des trous de balles. Ça fait partie de l'histoire de la place.
Luc, les balles tirées par le caporal Lortie quand
il a
pris d'assaut l'Assemblée nationale du Québec, il y a encore des traces de balles.
Ben oui, mais c'est ben ça oui, l'histoire. C'est l'histoire d'un édifice, ça fait partie de l'histoire.
Voilà.
Ça ne cause pas de danger structurel. Je trouve que c'est une excellente décision.
Voilà, très très bien, mon cher Luc. Eh bien, on se redonne des nouvelles?
À plus tard.
On s'en va à la pause. Et au retour, on va parler donc d'exploitation sexuelle des mineurs au Québec. C'est une véritable industrie. Vous voulez parler d'industrie, là? L'industrie du proxénétisme et de l'exploitation sexuelle de nos mineurs, notamment celles qui sont dans les centres jeunesse, là. Il y a eu toutes sortes d'histoires, là, fugueuses et tout ça, là. Mais nous, on les exporte. On fait pas juste les exploiter chez nous. C'est un produit, c'est épouvantable ce que je vais dire là, mais on exporte nos jeunes filles dans le reste du Canada. Puis t'as des proxénètes là, qui font du fric avec ce qu'ils considèrent. Ils voient ça, eux autres, là, en hommes d'affaires. Il y a des femmes aussi là-dedans. Puis leur produit d'exportation, c'est nos jeunes femmes, nos jeunes filles. Après la pause.